Chapitre 3, partie 4, extrait 3, page 163, Guy de Maupassant, apparition. Une rencontre mystérieuse.
Je m'écarquillais les yeux à déchiffrer les suscriptions quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe, mais au bout d'une minute, un autre mouvement presque indistinct me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde des liasses qu'il me fallait, et je trouvais justement la troisième, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à 2 mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur. Le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts. Et j'ai souffert, oh, souffert, en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison, non. J'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service. » Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit. « Voulez-vous ? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre, oh, je souffre. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil. Elle me regardait. « Voulez-vous ? Je fis « oui » de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors elle me tendit un peigne de femme en écaille et elle murmura « Peignez-moi, oh, peignez-moi, cela me guérira, il faut qu'on me peigne, regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux, comme ils me font mal. » Ses cheveux dénoués, très long, très noir, me semblait-il, pendait par-dessus le dossier du fauteuil et touchait la terre. Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce comme si j'eusse manié des serpents? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts et je tressaille en y songeant. Je la peignais. Je maniais je ne sais comment cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouai et la dénouai, je la tressai comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit « Merci », m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entrouverte.